SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Europa Voice numéro 118. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Nathanaël Bloch.
Bonjour Marianne.
Deux sujets aujourd'hui, la loi européenne sur les services numériques en première partie, puis on va parler du coup d'État au Gabon, ce que ça signifie pour la France et sa présence militaire sur place. On y va, le premier sujet, le Digital Service Act, c'est donc une loi européenne qui oblige les géants d'Internet à réguler leur contenu. Elle est entrée en vigueur le 25 août et depuis, les 19 plus grandes plateformes numériques présentes en Europe y sont soumises. L'objectif, Nathanaël, c'est d'éliminer des réseaux sociaux, moteurs de recherche et sites Internet, les pratiques opaques et les contenus illégaux. Alors, est-ce que cette loi, Nathanaël, a les moyens de ses ambitions?
Alors Marianne, déjà, pour remettre en contexte, le Digital Service Act, il s'inscrit dans un paquet, dans un ensemble plus important de lois européennes. Il faut mentionner aussi le Digital Market Act. En fait, ensemble, ces deux actes, le DMA et le DSA, ce qu'ils prévoient effectivement, c'est de limiter la domination économique des grandes plateformes, mais aussi, et c'est ça qui est important avec le DSA, la diffusion en ligne de contenus et de produits illicites. C'est le premier point, c'est-à-dire qu'il faut le voir de manière holistique. La deuxième chose par rapport aux ambitions, en fait, ce DSA, il entre en vigueur alors que le DMA, le Digital Market Act, lui, est déjà entré en application en mai dernier. Donc, en termes des ambitions, simplement par rapport à cette chronologie, j'ai envie de vous répondre oui. L'Europe se dote des outils nécessaires et a les ambitions de vouloir mettre en place, encore une fois, à la fois un outil pour limiter la domination économique et donc pour permettre une meilleure concurrence des grandes plateformes. Ça, c'est le Digital Market Act. Et là, ce dont il est question, c'est la limitation, l'encadrement et la diffusion en ligne des contenus et des produits illicites. Et ça, c'est le DSA, le Digital Service Act.
Ce que vous venez de dire, ça soulève plusieurs questions. On va y aller progressivement, mais concrètement, ça veut dire quoi? Donc, les 19 entreprises, on va les citer. C'est AliExpress, Amazon, Apple, Booking, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Search, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Microsoft, Pinterest, Snapchat, TikTok, Wikipédia, anciennement Twitter, YouTube et Zalando. Ça veut dire quoi concrètement pour ces géants d'Internet? Est-ce que ça veut dire tout simplement ce qui est interdit hors ligne doit être interdit en ligne?
Alors, c'est une manière de le résumer, effectivement. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, c'est l'ensemble de ces plateformes qui ont été désignées, choisies par la Commission européenne en avril dernier et qui réunissent, et ça, je crois que c'est important aussi de le dire, Marianne, elles réunissent ces plateformes 45 millions d'usagers, donc c'est-à-dire 10% à peu près de la population européenne, de 450 millions d'habitants en Union européenne. Elles doivent en fait, toutes ces plateformes, prendre une quarantaine de mesures. Dans ces 40 mesures, il y en a qui visent directement les mineurs. Par exemple, vous savez, les fameux termes et conditions qu'on accepte un petit peu facilement sans savoir vraiment ce qu'il y a dedans, eh bien, il faut que les plateformes fassent preuve de beaucoup plus de pédagogie et d'explication pour que les audiences jeunes se rendent compte ce qu'ils signent et ce qu'ils acceptent. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est par exemple ce qui a trait au ciblage publicitaire. Pareil, il va y avoir un arrêt du ciblage publicitaire qui va être demandé à ces plateformes pour les mineurs, pour les enfants de 13 à 17 ans. En termes des contenus, puisque là, on est sur la diffusion en ligne de contenu, il va y avoir une série de contenus qui vont être définis légalement, les contenus qui promeuvent le terrorisme, les contenus pédopornographiques, les contenus racistes, où les plateformes vont devoir mettre en place des outils de régulation. Donc, c'est une quarantaine de mesures extrêmement précises, extrêmement détaillées, et surtout, par rapport à la question sur les ambitions, ce qu'il faut aussi préciser, c'est qu'il y a des sanctions qui vont être prévues. Mais je crois, Marianne, pour bien faire rendre compte à nos auditeurs d'Europa Voice l'espèce de révolution que ce Digital Service Act entraîne, c'est que au lieu de prendre l'interdiction et d'essayer de réguler la liberté du côté des utilisateurs, on va mettre beaucoup plus de responsabilités sur les plateformes, mais ce qu'on va leur mettre comme responsabilité, ce n'est pas que les utilisateurs aient mis en ligne des contenus, c'est de ne pas avoir mis en place et les garde-fous, et si ces garde-fous ont sauté, de ne pas faire le nécessaire pour réguler. Et c'est ça aussi, presque philosophiquement, un petit peu la révolution de ces lois européennes et de ce Digital Services Act.
Vous avez parlé des sanctions, elles risquent quoi ces plateformes en cas d'infraction?
Alors, elle risque des sanctions financières, c'est-à-dire qu'il y a un pourcentage du chiffre d'affaires de ces entreprises qui peuvent être ponctionnées. C'est des amendes qui vont jusqu'à 6% du chiffre d'affaires global de ces entreprises-là. Encore une fois, on est sur les Google, etc., dont vous avez parlé, donc vous imaginez le montant de ces chiffres d'affaires, 6% du chiffre d'affaires global de l'entreprise. Et si vraiment étape supplémentaire, ça peut aller carrément jusqu'à l'interdiction de la diffusion de cette plateforme au sein de l'Union européenne. Il y a quelque chose de désincitatif aussi, c'est-à-dire qu'il y a une vraie effectivité de la sanction.
Oui, ça tape directement au portefeuille. Ces entreprises, on les a citées, pour le moment, elles sont 19. C'est des entreprises internationales. Il y a Amazon, par exemple, c'est américain, mais il y a aussi des entreprises européennes. Zalando, c'est allemand, par exemple. Pourquoi c'est l'Europe qui se charge de la régulation? Est-ce que l'Europe est la seule à disposer du poids économique et juridique suffisant pour réguler ces entreprises?
Je pense qu'il y a trois réponses à apporter à ça. D'abord, c'est que si on regarde effectivement l'ensemble de ces plateformes et l'ensemble des acteurs qui possèdent ces plateformes, on va des États-Unis à la Chine. Et on peut bien imaginer le grand écart en termes de liberté d'expression ou des régulations qui font que c'est extrêmement difficile de trouver des solutions entre ces deux acteurs. Donc, déjà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser aux pays eux-mêmes, les pays ne sont pas forcément en mesure de s'accorder. C'est vrai pour le digital, c'est vrai pour les incitations carbone, enfin c'est vrai pour tout un tas de sujets. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, Marianne, c'est qu'encore une fois, au niveau européen, il y a une logique, que ce soit l'Union européenne qui porte ça et que ce ne soit pas fait pays par pays. Encore une fois, ça montre aussi le poids, ça montre la pertinence de l'Europe de se doter d'un projet politique, parce que là, c'est vraiment un projet politique. Ça, c'est la deuxième réponse. Et puis la troisième réponse, vous l'avez un petit peu mentionné, c'est que pour l'instant, on a ces 19 grandes plateformes, mais au fur et à mesure, on va avoir aussi tout un tas d'acteurs qui vont être rajoutés. C'est presque une version, pour reprendre des termes numériques ou digitaux, c'est presque une version bêta qu'on est en train de tester là avec ces grandes plateformes et les DSA avant vraiment de l'étendre à l'ensemble. Mais on veut taper fort, l'Europe veut taper fort et le commissaire en charge de ça, Thierry Breton, veut taper fort en mettant voilà, dans la balance. Alors l'idée, ce n'est pas de mettre que les GAFAM, parce que c'est ça d'ailleurs, c'est plutôt le Digital Market Act par rapport aux idées de concurrence, où là, vraiment, on vise plutôt les très, très grands groupes, hein, les GAFAM, les Google, Amazon, Facebook, etc. Là, c'est vraiment déjà étendre à 19 plateformes un peu plus élargies, et puis, in fine, bah, de l'étendre à des dizaines de milliers d'acteurs qui vont devoir, s'ils veulent être diffusés dans l'Union européenne, respecter ces quelques règles.
Mais on peut imaginer que certaines plus petites entreprises doivent trembler à l'idée d'être incluses dans cette loi à terme, puisque vous l'avez dit, les sanctions sont désincitatives, comme vous disiez. 6% du chiffre d'affaires mondial, il y a des entreprises qui ne pourraient pas faire face à de telles sanctions.
Oui, effectivement, il y a des entreprises qui ne pourraient pas faire face à des telles sanctions. Mais après, l'idée, encore une fois, c'est que ce soit une communication. Ça va dans les deux sens avec l'Union européenne. Et par exemple, ces plateformes-là, mais ce sera le cas aussi pour les futurs acteurs, vont devoir elles-mêmes fournir à l'Europe un rapport pour montrer, pour expliquer quels sont les risques systémiques que ces plateformes posent pour la démocratie et les droits fondamentaux. C'est-à-dire qu'elles vont devoir déjà elles-mêmes se justifier que, en termes de vie privée, en termes de processus électoraux, en termes de diffusion de contenu illicite, elles, qu'est-ce qu'elles font et quels sont les risques inhérents à l'utilisation par cette plateforme. Et puis le deuxième élément, encore une fois, c'est cette régulation a posteriori, c'est-à-dire quels sont les mécanismes de régulation, quels sont les mécanismes de curation, quels sont les mécanismes de filtrage que ces plateformes, elles imposent pour que les contenus qui tombent sous le coup de la loi ne puissent pas rester sur ces plateformes. Et d'ailleurs, c'est là où là, on est sur un débat aussi philosophique, et vraiment, j'utilise le mot sans emphase d'une certaine façon et de manière complètement adaptée. C'est que par exemple, la question des infox ou des fake news, pour l'instant, elle ne rentre pas dans ce cadre-là. Parce qu'une fake news, ça peut avoir des conséquences, ça peut être dommageable d'une certaine façon, mais ça ne tombe pas pour l'instant sous le coup de la loi. Dire que la Terre est plate, on a le droit sur les réseaux sociaux de le dire. Ce que demande l'Europe, ce n'est pas de réguler la liberté d'expression et ce qui est admis ou pas admis, c'est qu'une fois qu'un contenu tombe sous le coup de la loi, et ça reprend ce que vous avez dit en début d'émission, c'est ce qui est répréhensible dans la vie réelle doit l'être aussi dans la vie numérique. Et donc, c'est comment ces plateformes font bah, pour que effectivement ces contenus-là ne soient plus diffusés, que aussi les pratiques, par exemple, qui visent directement à faire du ciblage par rapport à la religion, par rapport à des informations confidentielles sur lesquelles les utilisateurs n'ont pas donné leur accès et leur aval ne puisse pas être utilisé. Voilà, c'est vraiment mettre les plateformes face à leurs responsabilités, mais ne pas leur en ajouter, ne pas en fait ajouter des responsabilités que tout à chacun n'aurait pas dans la vie de tous les jours.
Derrière cette loi, il y a un homme, c'est Thierry Breton, le commissaire au marché intérieur. Et Thierry Breton a dit, il s'est félicité de cette loi, il dit, c'est la fin d'une ère de non-droit. Est-ce qu'il est dans le vrai ou est-ce que lui aussi est très ambitieux?
Je crois que l'Europe là montre vraiment le projet politique qu'il y a derrière le projet économique. Il faut le rappeler encore une fois pour nos auditeurs d'Europa Voice, l'Europe c'est d'abord un projet de coopération économique pour éviter les guerres, c'est mettre en commun des ressources communes, c'est contribuer à une stabilité économique pour justement être dépendants d'une certaine façon les uns des autres. Ça c'est la première étape de l'Europe. Et puis depuis une trentaine d'années, on est sur l'approfondissement, enfin là, ce débat élargissement approfondissement, mais sur la question de l'approfondissement, c'est quelle est l'étape supplémentaire pour l'Europe? Est-ce que l'Europe est simplement un marché intérieur commun plus plus, ou est-ce qu'il y a un projet politique derrière? Est-ce qu'il y a un gouvernement européen? Est-ce qu'il y a une diplomatie européenne? Et là, sur ces questions du numérique, qui encore une fois dépassent simplement le cadre de régulation d'une plateforme, on est sur un vrai, pour moi, projet politique. Et donc, je crois effectivement, sans présager de ce qui peut se passer, de la manière dont ça va être adopté ou ça peut être adopté par les plateformes. En tout cas, c'est certainement parmi les quelques plus grands règlements européens de ces dernières années, le Digital Market Act et le Digital Services Act, avec des conséquences. Je crois que Thierry Breton, même il est un peu peut-être trop dans l'autocongratulation, en tout cas, il a raison de dire que ces règlements européens sont une des plus grandes choses que l'Europe a réalisées ces dernières années.
Et donc, une loi sur le numérique qui a vocation à s'étendre et à concerner davantage d'entreprises dans le futur, comme vous l'avez dit, Nathanaël. Merci beaucoup. On passe à notre deuxième sujet. Quelques heures après l'annonce de la victoire du président sortant à l'élection présidentielle, Ali Bongo, au pouvoir depuis 14 ans, des militaires ont annoncé mettre fin au régime en place. Et donc alors, déjà pour commencer, Nathanaël, le parallèle avec le coup d'État au Niger fin juillet pourrait être un petit peu rapide. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, évoque une élection entachée d'irrégularités. Est-ce que c'est une forme de soutien au putsch de la part de l'Union européenne qui se démarquerait de la réaction internationale qui est tout de même à l'intérieur? Inquiétude, ou au contraire, est-ce que la réaction de Josep Borrell intervient dans une ligne commune qui est de mettre en avant le fait que ce putsch soit généré par des élections entachées d'irrégularités, contrairement au Niger?
Les réactions à la fois, Marianne, et européennes et françaises sont effectivement assez différentes par rapport aux situations au Niger et à ce qui se passe au Gabon. Par rapport au Niger, il y avait effectivement des réactions beaucoup plus fortes de l'Union européenne. Il y a d'ailleurs les chefs de la diplomatie qui se sont réunis cette semaine. Il y a eu la question des sanctions contre la junte militaire, des questions des sanctions économiques, la question d'une collaboration avec la CEDEAO, donc l'Union africaine. Et du côté français, les réactions ont été aussi beaucoup plus fortes par rapport au Niger et par rapport au putsch. Le Gabon, c'est un peu différent parce qu'on voit bien que les condamnations de certains dirigeants européens se font un peu du bout des lèvres par rapport à Ali Bongo. Emmanuel Macron l'avait rappelé dans un déplacement il y a quelques mois qu'il fallait que le processus soit démocratique, que les élections soient libres, etc. Et donc là, il semblerait, mais enfin, c'est encore une fois, c'est très tôt pour le dire, mais que ce que reprochent les militaires qui ont pris le pouvoir au Gabon, c'est que le processus démocratique a été entaché d'irrégularités et que cette 15e année pour Ali Bongo est peut-être celle de trop parce qu'il a prouvé qu'encore une fois, le processus démocratique et le processus d'élection n'étaient pas respectés. Donc ça, c'est d'un point de vue global, c'est effectivement des réactions beaucoup plus, des condamnations beaucoup plus du bout des lèvres sur le putsch au Gabon. Et puis l'autre chose aussi, c'est que comme ça intervient quand même après le Niger, et du côté français et du côté de l'Union européenne, c'est compliqué d'avoir plusieurs fronts qui sont ouverts dans cette zone. Alors, on n'est pas beaucoup plus au sud, hein, au Gabon, beaucoup plus au sud de l'Afrique, mais quand même dans toute cette zone du Gabon au Niger, avec encore une fois le retrait de certaines présences militaires dans d'autres pays plus du Sahel, la fin des opérations Barkhane, la contestation aussi de la présence et le retrait des forces en Centrafrique. Enfin, tout ça fait que c'est à chaque fois, c'est quand même encore un front de plus et une menace de plus qui se fait jour sur le continent africain. Donc c'est pour ça aussi que je pense que pour l'instant, les Européens attendent, et puis les Européens aussi attendent de voir si les Gabonais ne peuvent pas eux-mêmes trouver une solution de sortie. C'est-à-dire que le putsch lui-même, malgré les images terribles quand même des militaires qui interviennent sur un plateau de télé, pour l'instant, la violence qui est exprimée au Gabon est quand même inférieure à celle qu'on a vue au Niger. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a cette sorte d'attentisme un petit peu et de condamnation à demi-mot des Européens et des Français pour l'instant.
Un putsch Niger, un putsch Gabon, les conséquences, elles sont directes pour la France. Mais pour Paris, quand même, ce coup d'État militaire, il se distingue entre le Niger et le Gabon par le fait que cette fois, il n'y a pas eu d'hostilité contre la France. D'ailleurs, le président de la transition nommé, hein, Brice Oligui Nguema, qui était commandant en chef de la garde républicaine, a immédiatement demandé le rétablissement de la diffusion des médias francophones internationaux comme RFI, France 24, TV5 Monde. Il semble, Nathanaël, que ni la coopération militaire ni l'aide au développement n'ont été coupées dans ce putsch au Gabon. Est-ce que ça veut dire que ça a moins de conséquences sur Paris?
C'est un très bon point, Marianne, effectivement. Il y a des points de différence. Il y a celui-là donc, que vous avez mentionné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de manifestation, ou très peu de manifestations d'hostilité par rapport aux forces françaises au Gabon. Ce n'est pas la question pour l'instant, alors qu'au Niger, il y a eu un ultimatum qui a été posé. Il y a une vraie hostilité. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point aussi, c'est que pour l'instant, la France, alors qu'elle a évacué un nombre important de ressortissants à Niamey, au Niger, début août, pour l'instant, il n'y a pas d'opération similaire qui se dessine à Libreville, et la situation sécuritaire dans son ensemble est jugée par les autorités françaises sous contrôle. Donc c'est vrai que pour la France, il y a pour l'instant une vraie différence, mais encore une fois, c'est aussi parce que l'idée, c'est de ne pas ouvrir un front supplémentaire et de ne pas paraître comme une force colonisatrice qui va expliquer ce qu'il faut faire. Il y a aussi pour les Gabonais l'idée de résoudre cette crise insurrectionnelle par eux-mêmes. Après, la vraie question, c'est quelles vont être les conséquences de la réduction des effectifs militaires, parce qu'encore une fois, le cas gabonais, il n'est pas à analyser de manière isolée, il est à prendre en considération avec tout ce qui se passe en Afrique et en Afrique de l'Ouest depuis maintenant 2-3 ans. Ça va être quoi les conséquences de cette réduction d'effectifs militaires français? Est-ce que, comme la nature a horreur du vide, ça laisse la porte ouverte à des forces chinoises, russes? Enfin, c'est ça vraiment la question que, à la fois, je pense, et le Quai d'Orsay et Borrell, au niveau de l'Union européenne, doivent se poser.
La France a un ancrage militaire dans certains pays d'Afrique depuis les années 60 et depuis quelques années, ses effectifs sont de plus en plus réduits. Mais justement, c'est quoi l'intérêt de la France? Est-ce que c'est de quitter totalement le Gabon ou au contraire, au vu de ces deux putschs en un mois, est-ce que l'intérêt de la France, c'est de redéployer ses troupes sur le front?
Il y a deux aspects à cette question. C'est d'abord, encore une fois, c'est une présence militaire qui date depuis les années 60. Donc c'est aussi un changement de paradigme dans la manière d'appréhender les relations avec le continent africain, la relation avec les pays africains. C'est beaucoup trop compliqué pour en parler dans ce numéro de Breuvage, mais ce que je veux dire, c'est que c'est à mettre en perspective. C'est pas une présence militaire d'un conflit qui s'est ouvert il y a quelques années, c'est une présence militaire qui a 70, 80 ans. Il y a ce paradigme-là à considérer. Ensuite, encore une fois, il ne faut pas voir la photo à un instant T, il faut voir l'évolution de la situation. L'évolution de la situation, c'est la fin des opérations Barkhane, Serval, c'est le retrait des troupes au Mali, c'est l'évacuation des ressortissants au Niger. Donc c'est ça qu'il faut voir, c'est aussi l'évolution. Après, la question, elle est où est-ce que la France et l'Union européenne placent leur présence militaire? Est-ce qu'elle les place pour renforcer la stabilité de ces pays-là qui sont en proie à des tensions par rapport à des groupes terroristes, à des velléités indépendantistes? Donc, est-ce que ça veut dire que, je ne sais pas, moi, par exemple, il y a un redéploiement de certaines troupes dans des pays du Sahel? Est-ce que les Français mettent les troupes plus au nord, c'est-à-dire dans d'autres pays qui sont limitrophes à ces pays, par exemple? Là, je prends l'exemple du Mali. Ou est-ce que la question, c'est est-ce que, par exemple, les militaires français et la présence militaire et des Français et des Européens se fait plus au niveau des frontières de l'Europe? Parce qu'une des grandes questions aussi, c'est la stabilité de ces pays-là, mais c'est aussi de voir comment l'Europe, encore une fois, en tant qu'entité politique, défend ses frontières. Et puis toutes ces questions-là, elles ne sont pas résolues, Marianne. Ce qui pour l'instant fait le plus de, j'allais dire, de dégâts dans la non-coopération des pays européens, c'est ce qui se passe avec les vagues d'immigration à Lampedusa, c'est-à-dire l'Italie qui reproche à ses partenaires européens de ne pas participer à la prise en charge des migrants qui arrivent et de les laisser, de laisser le pays à lui-même. Il y a pas mal de ces questions-là, et c'est là pour moi le vrai changement de paradigme. C'est chaque pays africain est un cas isolé, mais si on voit cette évolution, ça veut dire quoi? De la suite de la présence française dans la région et du redéploiement peut-être beaucoup plus loin de ces militaires français, ce que dans quelques années, les militaires français auront totalement quitté le territoire africain. Et puis il y a un moment aussi, il va falloir composer avec les volontés politiques des pays eux-mêmes. Et quand on a des gouvernements qui ont été stables, en tout cas au pouvoir pendant des dizaines d'années, je prends l'exemple de Bongo, avec lequel les relations avec la France sont bonnes. S'il y a un changement même démocratique de présidence, il peut y avoir d'autres projets politiques de la part de ces pays-là. Donc c'est aussi à ça, c'est la fin de ces présidences à long terme en Afrique vont aussi devoir obliger les Français à revoir leur stratégie militaire dans ces pays-là, parce qu'il va y avoir des nouveaux dirigeants et avec des projets politiques qui peuvent être complètement différents, Marianne.
Mais ça, c'est pour les accords de coopération militaire. On a bien compris, ils peuvent être amenés à changer au fil des années. Mais la France n'a pas qu'un intérêt militaire en Afrique. Et là, notamment, comme on est en train d'en discuter au Gabon, il y a aussi notamment le secteur minier qui est très intéressant pour la France au Gabon. Et ça ne changerait pas en fonction du président au pouvoir.
Non, ça ne changerait pas, Marianne, mais il y a quand même une différence fondamentale entre avoir une présence militaire dans plusieurs points d'ancrage dans un pays et simplement permettre qu'une activité économique se poursuive et donc de maintenir, par exemple, la sécurité d'un site. On l'avait mentionné d'ailleurs pour la discussion sur le Niger, ça l'est vrai aussi pour le Gabon. Oui, il y a des secteurs, il y a les entreprises françaises qui font de l'extraction, etc. Donc il y a aussi sûrement cette timidité de la réaction par rapport à ça, mais je crois que ça, c'est plutôt la conséquence de la relation plutôt que la raison pour laquelle la relation et la présence militaire doit ou pas encore être en place et dans quelles conditions.
Si on doit conclure rapidement cet épisode consacré au putsch au Niger et ses conséquences sur la France et sa présence militaire en Afrique, est-ce que ce coup d'État militaire a fragilisé ou non, la réponse n'est probablement pas binaire, les positions françaises en Afrique?
C'est un peu encore, je pense, peut-être un peu trop tôt. Pour l'instant, la France ne se mouille pas trop, encore une fois, par rapport à la situation au Gabon. Un peu comme tous ses homologues européens, il y a un peu de langue de bois et la France suit avec beaucoup d'attention ce qui est en train de se passer. Là, je cite hein, le porte-parole à Olivier Véran du gouvernement qui dit que Paris surveille avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation. Donc, s'il y a quelque chose que les auditeurs d'Europa Voice doivent retenir, c'est que le cas gabonais, comme le cas du Niger, ne doivent pas être pris de manière isolée. La question, encore une fois, c'est le redéploiement des forces françaises pour aider à la lutte contre les djihadistes. Cette question est encore plus prégnante après l'arrêt des opérations Barkhane-Serval, après le retrait des troupes du Mali et du Burkina Faso. Et cette question-là, voilà, elle a plein comme ça d'implications. Le Gabon fait suite au Niger, qui fait suite au Burkina Faso, au Mali, à plein de choses dans la région. Et donc, je crois que c'est à l'aune de ces éléments-là que la France va dessiner une nouvelle stratégie militaire et c'est à l'aune de ces éléments-là qu'on pourra dire ou pas si la position de la France va ressortir ou fragilisée ou renforcée et dans quel état seront les relations bilatérales avec chacun de ces pays d'Afrique.
On y verra sûrement un petit peu plus clair dans les jours et les semaines à suivre. Merci beaucoup, Nathanaël.
Merci Marianne.
Messieurs, dames, merci de votre écoute. C'était Europa Voice numéro 118.